et jeune et le sens de la vie. Stan Rougier est convaincu qu'il faut donner un sens à la vie des jeunes d'aujourd'hui. Il a travaillé comme éducateur avec de jeunes délinquants et il lui semble que les jeunes ont plus soif que jamais d'un monde où l'avenir est à la tendresse. Stan Rougier est interviewé près de Paris par Marcel Brisebois.
Stan Rougier, pourquoi avoir décidé de parler des jeunes?
Eh bien, parce que j'ai vécu parmi eux, et de même qu'un explorateur qui aurait vécu dans une tribu d'Amazonie aurait envie de les faire connaître, de même j'ai eu envie de faire connaître ce milieu, et puis d'autre part, on me l'a demandé. Un éditeur est venu, il m'a dit, j'ai une collection sur l'espérance, est-ce que votre contact avec les jeunes vous donne une perspective sur ce sujet-là? Alors comme il me semblait que les jeunes nous provoquaient à espérer pour des lendemains meilleurs parce que c'est eux qui bénéficieraient ou qui pâtiraient de la situation et de l'état de la société, ça valait la peine de les entendre puisque tout se fait pour eux mais un peu sans eux.
Mais pourquoi dites-vous qu'ils nous provoquent à l'espérance et qu'ils ne nous provoquent pas au contraire à la désespérance?
C'est-à-dire quand quelqu'un va très 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 mal, il nous amène à un sursaut. On se dit, s'il est en train de couler, il faut que je sois solide, il faut que je me raccroche à une branche solide, puisqu'il est en train de s'agripper à moi, et qu'il tombe. Alors, par amour pour lui, je vais trouver un point d'appui plus solide.
Vous parlez des jeunes, et vous dites, n'est-ce pas, que quand vous en parlez, vous souhaitez que votre lecteur retrouve en lui une certaine jeunesse. Est-ce que ce n'est pas quand même un souhait un peu, je dirais, fragile, puisque finalement, est-ce que nous n'avons pas dépassé cette jeunesse qui a été pour nous un événement fini?
Oui, mais enfin, il me semble qu'il y a en chacun de nous des sources d'innocence et de fraîcheur qui sont là, qui sont des nappes intérieures, comme une source sous une couche de terrain, et que retrouver cela, c'est peut-être vivre mieux. Et que de nombreux hommes d'un certain âge ont retrouvé les sources de leur propre jeunesse. Je pense à Bernanos, je pense à Picasso qui disait « il en faut du temps pour devenir jeune ». Je suppose qu'il voulait dire « redevenir jeune ». Le Christ lui-même dit « si vous ne redevenez comme des petits-enfants, vous n'entrerez pas dans le royaume ». Je suppose que la jeunesse, si vous voulez, c'est un état de virginité émotionnelle où on se laisse toucher par ce qui arrive et où on n'est pas figé par des thèses culturelles, des opinions, des valeurs à défendre, etc. Dernièrement, je voyais une famille qui se disputait pour des questions d'héritage. Bien, la génération des 40-50 ans était en pleine dispute et leurs descendants s'en fichaient pas mal et se disaient « mais enfin, qu'est-ce qui vous prend ?»
Pour vous donc, il s'agit plutôt de disponibilité.
Oui, absolument.
Une disponibilité qui manquerait peut-être à des gens de notre âge.
Oui, qui sont un peu coincés parce qu'ils ont décidé que ce serait comme ça. Et peut-être ça les sécurise, ils se sont donné des repères. Et je pense que c'est nécessaire d'avoir des repères, mais il ne faut pas qu'ils soient trop précis parce que sinon, il n'y a plus d'aventure.
Mais alors que vous m'avez cité tout à l'heure ce mot de l'Évangile, si vous ne redevenez comme des petits-enfants, mais est-ce qu'il n'y a pas aussi ce mot de saint Paul qui nous invite à être des adultes?
Oui, c'est vrai. Mais ça, c'est peut-être dans un autre sens. Devenir adulte, alors avoir une certaine maturité, ne pas recevoir les coups avec trop de fragilité, ne pas être trop vulnérable aux déceptions, soyez solide. Les deux ne s'excluent pas. Le Christ, très souvent, d'ailleurs, demande des vertus complémentaires, comme par exemple, quand il dit « soyez simples comme des colombes et prudents comme des serpents ». Bon, mais il faut maintenir à la fois la solidité de l'adulte et la disponibilité du jeune.
Donc c'est un peu le message que vous voulez livrer actuellement.
Alors le mot message est un peu gros, mais enfin c'est l'intuition que je souhaite faire partager.
Et comment on réagit à cette intuition que vous véhiculez?
Devant cela, les attitudes sont très variées. Les uns s'y retrouvent tout à fait. J'ai dit tout haut ce qu'ils pensaient tout bas. Je leur ai permis, si vous voulez, de reconnaître en eux-mêmes cette même réalité à laquelle ils pensent. D'autres, au contraire, sont assez agressifs parce qu'ils ont plus ou moins le sentiment que je promeux la jeunesse comme un état paradisiaque, comme un état meilleur que tous les autres, et à ce moment-là, donc, ça voudrait dire ne grandissons pas, demeurons l'éternel adolescent, et c'est pas du tout ça que j'ai voulu dire.
J'ai lu votre bouquin « L'avenir est à la tendresse » dont vous nous avez parlé, dont vous nous avez dit quelques mots. Pour moi, ce que j'y trouve d'abord dans ce livre, c'est un, C'est le témoignage d'un homme pour qui l'amitié est au centre de sa vie. Est-ce que je me trompe?
Non, c'est exactement l'essentiel. Et j'aurais pu donc développer ce même thème à partir d'un livre qui porterait le même titre et qui ne traiterait pas du tout des jeunes. C'est effectivement l'amour, l'amitié, la rencontre humaine, la communication, le dialogue. On n'existe que par l'autre.
Vous avez même jusqu'à dire « quand tu parles, j'existe ».
Voilà, « à mesure que tu parles, j'existe ». J'ai emprunté ce mot à Paul Claudel dans une de ses œuvres. Et je trouve qu'on ne peut pas mieux dire.
Mais je comprends mal cette phrase-là. Vous pourriez me l'expliquer?
Oui, je pense qu'un individu a besoin, pour prendre conscience qu'il est quelqu'un, qu'il existe, qu'il est une personne, il a besoin d'un interlocuteur. C'est parce que quelqu'un me dit « tu » que je peux dire « je ». Et si je ne trouve pas donc ce regard et cette parole qui m'est adressée, je ne peux pas découvrir que j'existe. Je ne suis rien. Je ne peux exister que porté dans le regard d'un autre et avec quelqu'un qui s'adresse à moi comme un interlocuteur valable. Et j'ai des souvenirs précis de ma petite enfance où des êtres m'ont permis de prendre conscience que je n'étais pas une quantité négligeable ou que je n'étais pas de trop, parce que justement je me sentais... quelqu'un me disait « je te veux ». Vie.
Vous vous sentez valorisé par l'autre, mais est-ce que c'est pas le signe d'une certaine pauvreté intérieure, finalement? Est-ce que
c'est pas une valorisation, c'est presque une sortie du néant. C'est pas une pauvreté intérieure, puisque, ou bien alors nous ne sommes que pauvreté, à l'image de Dieu. En Dieu, les personnes n'existent que parce qu'elles sont portées dans le cœur d'un autre. Le Père, dans l'éternité, peut dire au Fils, à mesure que tu parles, j'existe, et réciproquement. C'est parce que Dieu est comme cela que l'homme qui a été créé à son image est comme cela.
Vous avez fait cette expérience de l'amitié, vous nous en parlez d'ailleurs dans votre ouvrage, avec entre autres une jeune fille que vous avez appelée Agnès, n'est-ce pas? Mais c'est une amitié qui s'est terminée par un échec, dans une certaine mesure. Qu'a représenté pour vous cet échec?
Je pense que beaucoup de choses sont nées en moi à partir de cette amitié. Bon, d'une part, il y a eu cette dimension de poésie dont cette fille était pétrie, car elle était poète jusqu'au bout des ongles. À 15 ans, elle avait gagné un concours de poètes qui s'adressait à des gens de toute génération. Et la première fois que je l'ai connue, elle ne m'avait pas parlé, elle m'avait donné un cahier qui était tout plein de poèmes. J'ai passé toute la nuit à les lire et j'étais dans un état second. C'était cette dimension poétique de la vie qu'elle arrivait à me communiquer. Ensuite, dans cette amitié, j'ai senti que nous nous apportions réciproquement quelque chose, enfin, ne serait-ce que ce regard qui est un regard pacifiant, enfin, qui est une déclaration de paix. Et avec toi, je suis bien, avec toi, je peux exister, tu ne piétineras pas mes plates-bandes, je peux dire ce que j'ai de plus fragile en moi, tu ne vas pas t'en moquer. Donc nous avions cette complicité, cette connivence. Mais effectivement, lorsque cette fille s'est déglinguée petit à petit jusqu'à s'enfoncer dans le suicide que je n'ai pas pu éviter, puisque l'amitié n'a pas été assez forte, eh bien, je l'ai ressenti effectivement comme un échec.
Parce que vous vous étiez dérobé? Vous dites que l'amitié n'a pas été assez forte. C'est que vous vous étiez dérobé quelque part ou...
Probablement, ou je n'étais pas assez solide. Elle m'écrivait un jour, tu es responsable pour toujours de ce que tu as apprivoisé.
Le mot de Saint-Exupéry.
De Saint-Exupéry. Oui. Et je crois que mon amitié n'a pas été assez forte. Je n'étais pas assez fort. Mm-hmm. J'avais besoin de me construire et elle m'a obligé, par sa mort, à me construire. Elle m'a obligé à essayer de devenir plus fort pour que tous ceux que je rencontrerai qui lui ressembleraient ne trouvent pas en moi un point d'appui qui craque, mais un point d'appui qui tienne.
Il me semble que vous venez de dire de vous-même des choses assez importantes, n'est-ce pas? Et la première, c'est que vous venez de parler de poésie.
Oui.
Et quand on vous lit, on sent que vous êtes un homme qui aimait la nature, n'est-ce pas? Qui est très près de la nature. Vous parlez de votre goût pour l'escalade, etc. Votre goût des voyages aussi. Vous êtes presque un pérégrinant, un vagabond. Qu'est-ce que c'est que, justement, cette poésie qui est en vous?
C'est un peu inné. Moi, je crois que je le tiens peut-être un peu de ma mère qui était peintre. Si vous voulez, il y a une espèce de communication profonde qui s'établit entre la beauté des choses et mon âme. J'ai le sentiment, si vous voulez, que l'univers n'est pas par rapport à nous comme quelque chose qui nous est étranger. Les choses me parlent de l'éternité, de l'infini, de Dieu, de la source de la vie, de nos fins ultimes, enfin, qu'adviendra-t-il de nous après la mort? Cette beauté me parle d'autre chose, me parle d'un état de béatitude pour lequel nous sommes faits. J'ai un avant-goût de l'éternité quand je vois un ruisseau qui coule, quand j'entends les oiseaux chanter, quand je me réveille la nuit et que j'ai les étoiles par-dessus ma tête.
Mais d'autre chose, c'est donc dire que vous vous évadez quand même. Cette nature que vous aimez n'est pour vous qu'un tremplin, donc vous la fuyez en même temps que vous l'aimez.
Non, elle est dans l'instant présent, une irruption d'éternité, une déchirure sur l'essentiel. Elle me parle de ce pourquoi je suis né. Parce qu'il y a, si vous voulez, dans le quotidien, un aspect du réel qui est fait de mesquinerie, qui est fait de conflit. Or, la nature me parle d'un autre monde pour lequel je suis fait, mais qui n'est pas évasion, qui est là sous-jacent tout le temps, ce que le Christ appelle la vie éternelle et qui est déjà commencé.
Cet appel justement à l'autre monde, vous l'avez toujours ressenti ?
Non, je l'ai ressenti confusément quand j'étais enfant et où mon amour de la nature, on aurait pu appeler ça un panthéisme si vous voulez, c'est-à-dire que je voyais la dimension éternelle des choses et j'étais amoureux de tout ce que je voyais, que ce soit une libellule ou un papillon ou un grillon ou une marguerite. Et j'éprouvais à ce moment-là des émotions, des battements de cœur qui me mettaient en présence d'une réalité. Mais je ne savais pas le pourquoi. Je n'aurais pas su expliquer que c'était Dieu qui m'envoyait tout un tas de baisers à travers toutes ces splendeurs.
Mais comment justement avez-vous découvert cette dimension spirituelle ?
Alors cette dimension spirituelle, je crois que ça ne s'est pas fait d'un seul coup. Ça s'est fait petit à petit. Il y a eu d'abord le fait de vivre avec des jeunes délinquants, et ces jeunes étaient très déchirés, très, très marqués par une enfance complètement déglinguée. Et je me disais, mais pourquoi eux et pas moi ? J'avais un sentiment d'injustice épouvantable. Et chaque fois que je retrouvais ma propre famille, je pensais à ces jeunes qui étaient sans famille. Parce que ça commençait tôt pour moi. J'ai pris contact avec ce centre de délinquants à 18 ans. Donc à ce moment-là, si vous voulez, comme une espèce de brûlure et une interrogation. Pourquoi le mal ? Pourquoi l'injustice ? Donc l'interrogation spirituelle, pour moi, a commencé là. Et toutes les splendeurs du monde n'équilibraient pas cette injustice. Et j'étais donc déchiré.
Vous êtes révolté ?
Ah oui, absolument. J'ai eu une phase d'athéisme, là, d'autant plus forte, si vous voulez, que les idées que j'avais sur Dieu étaient un petit peu étriquées, un peu Dieu juge suprême, Dieu accusateur, Dieu qui culpabilise, etc. Donc je suis sorti un peu de tout ce cadre religieux. Ensuite, je suis parti en Afrique, où j'ai senti une mystique omniprésente, à la fois au contact des musulmans et au contact des gens qui sont animistes. Et tout était vu sur une longueur d'onde spirituelle. Vraiment tout. Toute la vie était sous un éclairage spirituel. Et à ce moment-là, donc, ça bougeait un peu en moi, cet appel à autre chose. Et lorsque je suis rentré de ce séjour africain, je suis parti dans un camp qui était animé par un aumônier dominicain. Et tous les soirs, il nous commentait des passages de l'Évangile. Et à ce moment-là, cet environnement de nature, parce qu'on était dans les Alpes et c'était magnifique, au bord du lac de Tignes, et en même temps, le soir, cette dimension spirituelle à travers le Christ de l'Évangile, qui était tout le contraire du Dieu que j'avais dans ma tête et qui était un peu oppresseur. Donc là, j'étais devant un Christ libérateur. J'avais donc là, à ce moment-là, disons deux images de Dieu. Le Christ, amoureux de l'homme, avec un faible pour l'opprimer, le rejeter. Et de l'autre côté, cette splendeur de la nature, et qui me rappelait ce que j'avais confusément toujours su, que Dieu était beauté et vie.
Et parlant tout à l'heure de cette amitié que vous avez eue avec cette jeune fille, Agnès, vous avez dit avec elle je pouvais partager les choses les plus fragiles de mon être. Quand on vous voit, on a l'impression d'un homme costaud. Alors on est un peu surpris quand on vous entend parler de la fragilité des choses intérieures. Est-ce que vous pourriez nous parler de cette fragilité qui est en vous ?
Je crois que je ne suis pas seul à être dans ce genre de personnalité qui physiquement est assez développée et qui intérieurement est assez vulnérable. Je connais des tas de gens comme ça. Enfin, je pense à Brassens, c'est un malabar physiquement, mais à l'intérieur c'est un cœur d'enfant, un cœur de petite fille. Et je crois que c'est difficile d'ailleurs peut-être à vivre parce que les gens nous croient très solides et se permettent des fois de nous agresser avec une extrême violence parce qu'ils en ont besoin pour se défouler. Enfin, on paraît à leurs yeux comme un paratonnerre qui va bien fonctionner. Et en fait, on assume quelquefois très mal cette violence. Et c'est vrai que c'est une situation qui me fait mal.
Est-ce que vous iriez jusqu'à dire, finalement, que tout homme est un être fragile?
Oui, mais je crois que beaucoup ont abrité cette fragilité par des plaques de blindage et qui les mettent à l'abri des coups. Et qui est parfois bonne. Enfin, je pense que être diffamé, si vous voulez, comme l'a été récemment un ministre français qui s'est suicidé, c'est sûr que c'est triste, si vous voulez, d'en arriver là. Et il vaudrait mieux que dans cette phase de découragement, un système de protection se mette à fonctionner et que ce blocos tienne le coup.
En d'autres termes, nous avons tous des carapaces, finalement.
Je crois.
Nous abritons derrière ces carapaces.
Absolument.
Alors vous invitez, vous, au contraire, à les faire éclater.
J'invite de temps en temps à baisser le pont-levis, mais il faut le faire à bon escient, parce que si on se rend trop vulnérable à des choses trop méchantes, et au fond, les choses méchantes, qu'est-ce que ça veut dire? C'est quelqu'un qui souffre, c'est quelqu'un qui a mal. Saint-Ex, à un moment, dit « Cette femme qui te montre une telle agressivité, t'ouvre sa robe, tu vois son cancer et tu pardonnes. » Moi, j'ai constaté souvent que des gens qui m'agressaient, je me défoulais en leur écrivant une lettre où j'essayais de me défendre, et puis je mettais cette lettre au panier, et puis je répondais simplement « Que vous est-il arrivé pour être si malheureux ?» Et je voyais une avalanche de confidences de quelqu'un qui me racontait toute une situation atroce d'une femme qui est partie, d'enfants malades, ou de choses comme ça, ou d'un métier qu'on a perdu. Et je me dis, au fond, l'agressivité, ça veut dire « J'ai mal ».
Et les hommes ont mal.
Oui.
Et c'est pourquoi, pour vous, l'avenir est à la tendresse.
Oui, sinon il n'y a pas d'avenir.
Mais qu'est-ce que c'est que la tendresse?
La tendresse, si vous voulez, c'est un peu le génie de l'amour. C'est l'amour global, c'est l'amour qui est spirituel, intellectuel, sensible. Si vous voulez, on a trop coupé l'amour en dimensions. Alors il y a l'amour intellectuel, il y a l'amour charnel. Et je voudrais qu'on retrouve une espèce de globalité de l'amour. On aime toujours avec tout son être, ou alors on n'aime pas. Et la tendresse, c'est cet état, si vous voulez, de communication avec quelqu'un avec qui on se dit, il n'est pas là pour me mépriser, il n'est pas là pour me faire du mal, et nous avons besoin l'un de l'autre, et faisons route ensemble.
Mais la tendresse, c'est quand même quelque chose de charnel.
Les deux. C'est tout.
Alors comment un prêtre peut-il parler de l'amour charnel? Vous en parlez d'une façon donc très théorique, très abstraite.
Ah non, j'ai été fiancé et je connais la dimension charnelle de l'amour. Mais ceci étant dit, de toute façon, les confidences des amoureux me suffisent à savoir de quoi il s'agit.
Oui, mais enfin, vous ne voulez pas quand même parler de l'amour pour les autres et de l'amour des autres. Vous voulez parler de l'amour qui est en vous, de la tendresse qui est en vous, j'imagine.
Mais les deux, je ne peux pas couper la tendresse des autres pour moi de la mienne pour eux. C'est pas sens unique, la tendresse. C'est dans les deux sens. Mais vous vous étonnez qu'un prêtre puisse parler de la dimension charnelle de l'amour. La Bible en est pétrie. Le Cantique des Cantiques n'est rien d'autre sinon une déclaration d'amour de Dieu à l'être humain et qui est faite à partir d'une parabole d'amour charnel.
Mais que signifie alors votre chasteté ?
Notre chasteté, c'est normalement une disponibilité plus grande à tous, si vous voulez, on ne veut pas polariser notre affection sur un être précis, de peur que d'autres en soient frustrés. C'est d'ailleurs l'expérience même de l'amour humain qui m'a conduit à cela, en ce sens que lorsque j'étais fiancé, je constatais que parfois, lorsque je voulais rencontrer quelqu'un d'isolé, quelqu'un de solitaire, ne serait-ce qu'un clochard, j'avais l'autre quelquefois qui me disait « Dis donc, tu viens ?» Et moi je me disais « Mais c'est pas possible, je ne peux pas vivre une situation de déchirement comme celle-là. » Et puis cet homme qui est en face de moi et qui est seul, je ne peux pas lui dire « Tiens, voilà ma fiancée, voilà la source de mon bonheur, je te la donne. » Ce n'était pas partageable. Tandis que Dieu, la source de cet amour que je vivais, lui est partageable.
Mais enfin la tendresse justement exige une certaine intimité. On ne peut pas être tendre n'importe qui, avec n'importe qui, n'importe quand, n'importe comment.
Absolument.
Donc vous appelez à une certaine intimité des êtres.
Disons que j'appelle à un sentiment que l'autre puisse avoir de compter, d'être précieux et de l'être.
D'être unique même.
D'être unique, oui. Alors, que chacun se sente unique quand il est là.
Mais c'est une certaine façon de mentir aux gens. C'est pas possible
non.
Que chacun soit unique.
Non.
Expliquez-moi.
Je suis convaincu que là, par exemple, vous êtes là en face de moi. Pour vous, pour le moment, je suis unique. Et vous me donnez le sentiment que j'existe et que et que la parole que j'ai à vous dire est précieuse. Donc c'est cela. Il faut que chaque personne qui puisse venir me voir se sente unique pendant le temps que je lui accorde. Je ne dis pas que j'y arrive tout le temps, mais si j'essaie de vivre dans la chasteté, c'est pour pouvoir lui donner cela. Parce que je craindrais, si vous voulez, que mon énergie affective soit si limitée que si j'en ai donné beaucoup à quelqu'un, eh bien, il n'en reste plus plus suffisamment, quoi, pour chacun.
Votre foi, donc, est pour vous au centre de votre vie.
Ah oui, elle l'est devenue.
Elle est devenue.
Elle ne l'a pas toujours été, mais elle l'est devenue.
Comment l'est-elle devenue?
C'est un peu ce que je vous racontais tout à l'heure, ces contacts multipliés, contacts de l'injustice, contacts de la solitude, contacts aussi de la maladie et de la mort. Quand j'étais infirmier, c'était quotidien la mort. Et on se pose la question, où vont-ils tous ces gens? Et ensuite donc ce camp avec ce prêtre dominicain qui, à cause du climat absolument extraordinaire, de sympathie qui régnait dans ce camp, à cause de cette vitalité aussi de ce prêtre qui était un grand vivant, et on m'avait dit la foi, ça dévirilise l'homme, ça le met en marge de la vie. Je voyais là que c'était le contraire qui était vrai. Mmh. Et que cet homme était vraiment un amoureux de la vie. Je n'avais jamais vu quelqu'un qui aimait la vie aussi fort que lui. Et il est devenu pour moi un petit peu l'idéal de ce que je rêverais d'être.
Et vous aimez la vie aussi?
Ah oui, passionnément.
Oui. Mais qu'est-ce que vous aimez dans la vie?
Dans la vie, j'aime cette rencontre des êtres, surtout. Et puis j'aime ce sentiment que nous sommes appelés à une immense aventure qui nous conduit à être heureux ensemble pour toujours. Et ici-bas, nous avons des avant-goûts de la vie, si vous voulez, des aperçus de ce qui nous attend lorsque la mort viendra parachever toute cette évolution. Je pense que la mort est une seconde naissance. La mort est une seconde naissance, de même que quand j'étais dans le ventre de ma mère, je me préparais des yeux pour voir alors que je vivais dans l'obscurité, des mains pour prendre alors qu'il n'y avait rien à prendre, des poumons pour respirer alors qu'il n'y avait rien à respirer. Tout donc s'organisait en moi pour la vie qui allait venir. Et ici-bas, il me semble que nous sommes dans une situation où nous nous fabriquons un cœur où le feu de l'amour pourra brûler.
Vous pensez souvent à la mort ?
Ben, je suis amené à y penser, je ne le fais pas exprès, si vous voulez, mais je suis fréquemment au chevet de quelqu'un qui est en train de mourir.
Mais quand vous pensez à la mort?
Ben, j'y pense comme à la chose la plus merveilleuse qui soit, le passage, le seuil vers la vraie vie. Non pas que je pense qu'il faille arrêter la vie avant terme, ça je pense que ce serait stupide, parce que tout est à refaire après. Si vous voulez mourir prématurément, pour moi, c'est comme quelqu'un qui naît avant terme. Nous avons un développement spirituel à réaliser dans un temps donné que nous ne choisissons pas. Et si par hasard un événement accidentel venait interrompre ce processus, il nous est donné une seconde vie pour préparer notre éternité.
Vous avez employé un mot tout à l'heure qui me semble important dans votre existence, c'est le mot aventure.
Ah oui.
Vous voyagez beaucoup,
oui.
Mais ce n'est pas du tourisme que vous faites.
Non.
Qu'est-ce que c'est pour vous le sens de l'aventure, qui est un peu le sens de la vie finalement?
Oui. Oui, non, mais c'est... Moi, le contact avec l'aventure, si vous voulez, a commencé lorsque je suis parti tout seul de chez moi pour aller crapahuter tout seul dans les Pyrénées et dormir à la Belle Étoile. Ensuite, à 17 ans, je suis parti en Écosse en autostop. Écosse, Cornouailles, Pays de Galles. Ensuite, bateau stop pour rentrer en France. Et y avait un charme fou, si vous voulez. C'était tous les jours une rencontre nouvelle, tous les jours quelque chose de nouveau. L'année d'après, je suis parti en Laponie, au Cap Nord, tout seul, parce que je trouvais pas d'amis qui aient envie de faire ça avec moi. Et ensuite, tous les ans, j'ai continué à visiter un pays nouveau. Et pour moi, c'est la rencontre d'une autre manière d'être, d'une autre mentalité, d'une autre culture.
Mais c'est aussi l'aventure spirituelle.
Ah oui. Parce que les êtres que je rencontre sont concernés par Dieu d'une autre manière que moi, et ils me révèlent quelque chose de Dieu que je ne soupçonnais pas. Les hindous, par exemple, ou les musulmans, fabuleux.
Mais cette aventure spirituelle vous invite à l'intériorité.
Oui. Le contact avec l'Inde, notamment, a été fulgurant pour moi. Je partais en autostop vers la Turquie, et le stop marchait tellement bien que j'étais jusqu'en Inde. Et là, j'ai vu tout un tas de jeunes que je rencontrais qui venaient d'un monastère hindou ou d'un ashram, ou d'un monastère bouddhiste. Et il s'était passé quelque chose pour eux dans ce séjour qui avait duré 6 mois, 1 an, 3 ans. Et je me disais, moi aussi, j'ai envie d'aller voir ce qui se passe là-dedans. Mmh. J'ai été dans ces monastères et il se passait quelque chose.
Mais est-ce que vous n'avez pas envie aussi de voir ce qui se passe à l'intérieur de vous-même?
Ah oui.
Alors, qu'est-ce que vous découvrez à ce moment-là?
Ah, mais alors là, j'ai oublié de vous dire, on ne peut pas tout dire à la fois, que j'ai passé 365 jours dans un monastère à ne faire que lire la Bible et prier. Pas d'autres livres, pas de correspondance, pas de contact humain. Dieu et soi.
Et qu'est-ce que vous trouvez quand vous descendez à l'intérieur de vous-même?
Je trouve un autre. Je trouve un autre qu'on appelle Dieu. Le mot n'est pas forcément le mieux choisi. Je crois qu'originellement, il veut dire lumière. Moi, c'est pas tellement une lumière que je sens. C'est une effluve amoureuse, si vous voulez. C'est un quelqu'un qui m'a voulu et qui m'a tiré de son cœur et qui veut tous les êtres qui sont autour de moi. Et je crois que lorsque je touche à ce centre de moi, je rejoins tous les êtres. Enfin, pour moi, le chemin le plus court d'un être à un autre, c'est cela, c'est Dieu. Mais ce Dieu-là, j'ai besoin, pour le rencontrer, de silence, de recueillement et de me séparer, si vous voulez, du brouhaha et de l'activisme dans lequel, par lequel je suis menacé.
Et Dieu, ça m'apparaît quand même un nom très vague, finalement. Est-ce que c'est pas quelque chose de plus personnel, non?
Dieu, pour beaucoup de gens, est très vague. Quand j'interroge des fiancés qui viennent pour leur mariage, et si je leur demande s'ils croient en Dieu, la réponse à peu près à tous les coups, c'est « il y a quelque chose au-dessus de nous ». Moi, je suis un peu indigné par ce genre de réponse, parce que Dieu, pour moi, n'est pas quelque chose, mais quelqu'un. Et quelqu'un qui a un cœur qui bat, et un quelqu'un qui s'est rendu palpable et communicable en Jésus-Christ, d'une manière extraordinaire. C'est pas un Dieu vague, mais même le Dieu dans sa dimension spirituelle, si vous voulez, le Dieu hindou, est un Dieu que l'on peut ressentir au cœur même de son être. Dieu a contact avec notre âme, et notre âme, c'est une réalité dont on peut faire l'expérience. Si vous voulez, c'est pas une réalité dont on peut parler, mais c'est une réalité qui parle en nous.
Et qu'il faut savoir écouter.
Oui.
Stan Rougier, je vous remercie.
Stan Rougier a publié récemment, chez Salvatore, « L'avenir est à la tendresse, ces jeunes qui nous provoquent à l'espérance ». Il dédie ce livre à l'enfant qui sommeille en chacun de nous.